Bonjour, mes frères. Bienvenue à la fête des trompettes. C'est vraiment une belle journée ensoleillée ici, sur le campus de Dieu. Nous apprécions vraiment le soleil après plusieurs jours de temps nuageux et pluvieux. Eh bien, c'est la fête des trompettes. C'est le premier jour saint de la saison des jours saints d'automne. Nous savons, et nous l'avons souvent entendu, que Dieu utilise les trompettes pour proclamer les grandes choses qu'il fait, les grandes choses qu'il a faites, les grandes choses qu'il va faire. Nous savons et nous avons appris qu'un jour solennel, un jour saint, est un grand jour. Je suis sûr que vous pouvez rapidement vous rappeler toutes les grandes choses que Dieu ne fera pas avant de sonner de la trompette. Les événements qui viennent à l'esprit sont peut-être le retour du Christ, le jour du Seigneur, l'annonce de la présence de Dieu, les sept fléaux des trompettes, et ainsi de suite, le rassemblement des élus. À ce moment-là, dans le futur, lorsque cela sera fait, les trompettes retentiront. Ce sont tous de grands événements pour lesquels Dieu montre qu'il a une déclaration à faire en faisant retentir la trompette avant que ces événements ne commencent. Et nous pouvons facilement voir comment tout cela est lié à la saison des jours saints d'automne. Eh bien, Dieu voudrait que nous gardions cela à l'esprit avant de célébrer tous les jours saints de l'automne, et tous les grands événements qui nous attendent cet automne avec la saison des jours saints et qui nous attendent dans le plan de Dieu. Les trompettes sont utilisées à de nombreuses fins. Aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur l'un de ces commandements. L'un des commandements de Dieu qui explique pourquoi, d'une certaine manière, nous devrions également utiliser une trompette. Il a donné aux Israélites dans le passé une instruction, un commandement d'utiliser une trompette. Et ce commandement peut également s'appliquer à nous. Je veux prendre, nous allons y aller. Allons au chapitre 10, verset 9 du livre des Nombres. Regardons ce commandement de Dieu de sonner de la trompette et quand il faut le faire. Nous allons apprendre comment elle était utilisée dans le passé, comment elle s'applique à nous et ce que nous pouvons en tirer comme enseignement. Lisons d'abord le texte avant d'entrer dans le vif du sujet. Commençons par lire le passage biblique pour nous mettre dans le contexte. Nous sommes donc dans Nombre 10, verset 9. Dans ce passage, Dieu donne d'autres instructions sur le moment où il faut sonner de la trompette, principalement lorsque les Israélites doivent se déplacer et que les camps doivent se lever et se déplacer dans le désert. Regardons plus précisément le verset 9. Si vous partez en guerre dans votre pays contre l'ennemi qui vous opprime, vous sonnerez de l'alarme avec les trompettes, et vous serez rappelés devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. Oui, Dieu accomplira de grandes et merveilleuses choses après avoir sonné de la trompette. Je voudrais me concentrer sur la trompette. Elle a une grande importance pour nous, elle peut avoir une grande importance dans notre vie quotidienne, et elle avait une grande importance pour les anciens Israélites. Regardons simplement le verset. Dieu dit: alors tu sonneras de l'alarme avec des trompettes. Alerte, déchirer les oreilles, détruire, un cri, une alerte, un bruit fort, une alarme. Avant de partir en guerre, Dieu a donné à l'ancien Israël l'ordre de sonner l'alarme. Pourquoi a-t-il fait cela? La réponse se trouve dans les mots suivants: et tu seras rappelé devant le Seigneur, ton Dieu. C'est un point intéressant. Dieu a besoin qu'on se souvienne de notre existence. Est-ce vrai? C'est une instruction. Dieu nous veut d'une manière plus grande, et nous verrons cela, il veut que nous nous souvenions de lui. Il sait que nous sommes là, mais l'instruction est que vous serez rappelés devant le Seigneur. Que Dieu sait que vous êtes en difficulté. Et le mot rappeler signifie être marqué, être ramené à la mémoire. Dieu connaît toutes nos actions. Dieu connaît nos besoins lorsque nous nous mettons en prière avant même que nous les lui demandions, mais c'est une instruction intéressante. Dieu veut que nous sonnions l'alarme afin qu'il puisse se souvenir de nous. Et quelle en est la raison? Pour conclure le verset, et tu seras sauvé de tes ennemis. Réfléchissons donc un instant à l'ancien Israël. Nous allons parler des leçons tirées de l'ancien Israël, de la façon dont ils sont partis en guerre, de ce que ces leçons peuvent nous apporter. Et puis nous verrons comment Dieu veut que nous, soldats du Christ, partions en guerre et allions au combat. Mais si vous receviez cet ordre et que vous étiez une nation physique, et que Dieu, le Dieu créateur, vous donnait cet ordre, assurez-vous de sonner de la trompette et je me souviendrai de vous et vous serez sauvés de vos ennemis. Vous serez libérés. Vous serez ouverts, larges et en sécurité. Je vous vengerai, je vous défendrai, je vous préserverai et je vous sauverai si vous sonnez de la trompette, si vous vous souvenez de moi avant de partir en guerre. Maintenant, ne pensez-vous pas que chaque fois que l'humanité ou l'ancien Israël, que quiconque lisait cela, sonnait de la trompette avant d'aller à la guerre, je veux dire, Dieu promet de vous sauver lorsque vous le faites. Apprenons-en davantage sur l'ancien Israël. C'est un peu un point rhétorique. Bien sûr, on pourrait penser que chaque fois que l'ancien Israël partait en guerre, il sonnait de la trompette. Eh bien, tout d'abord, nous allons examiner certains cas où ils ont sonné de la trompette. Ils ont cherché Dieu avant de partir en guerre. Ensuite, nous examinerons les moments où ils l'ont oublié. Ils sont devenus un peu présomptueux. Mais on pourrait penser, de notre point de vue, du moins de mon point de vue, que si je partais en guerre, si je partais au combat, je sonnerais de la trompette, car Dieu nous promet ici de nous sauver. Passons au chapitre 31 du livre des Nombres. Nous allons examiner quelques bons exemples de ce qu'a fait l'ancien Israël. Nous sommes ici presque à la fin du livre des Nombres. Il existe de nombreux exemples, et nous en examinerons quelques-uns. Plantons le décor, voyons ce que nous pouvons apprendre de l'ancien Israël et du son des trompettes avant d'aller à la guerre. Nombre 31, verset 6. Au verset 6, Moïse les envoya à la guerre, 1000 hommes de chaque tribu, eux et Phiné, fils du prêtre Éléazar, avec les instruments sacrés et les trompettes à sonner dans ses mains. Ils combattirent les Madianites, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et ils tuèrent tous les mâles. Nous voyons donc ici, au verset 6, qu'ils sont partis en guerre, qu'ils ont sonné les trompettes et qu'ils ont remporté la victoire. Ils ont réussi. Ils ont gagné cette bataille. Ils ont simplement sonné les trompettes et Dieu les a soutenus. Passons à 2 Chroniques 13. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, mais nous allons lire celle-ci plusieurs fois. Elle est intéressante. Deuxième Chronique 13. Nous commencerons à lire au verset 12, en fait à partir d'une partie du verset 11. Mais après Jéroboam. Il s'agit d'une guerre civile, pour donner un peu de contexte, entre Israël et Juda qui commence ou est sur le point de commencer. Et nous savons qu'Israël s'est rebellé contre Juda et a suivi sa propre voie. Et Juda est celui qui a conservé le temple, conservé Jérusalem, continué à suivre les instructions de Dieu. Lisons donc. En fait, commençons par le verset 11. Nous allons lire un petit bout de l'histoire ici. Et il brûlait chaque matin et chaque soir des sacrifices et de l'encens parfumé pour le Seigneur, et les pains de proposition étaient disposés sur la table pure, ainsi que le chandelier d'or et ses lampes pour brûler chaque soir. Car nous observons. C'est Juda qui parle ici. Ce sont ceux de Juda qui parlent à ce moment-là, les prêtres. De brûler chaque soir. Et puis, car nous observons les commandements du Seigneur, notre Dieu, mais vous l'avez abandonné. » Il s'agit donc d'une conversation entre Judas et le reste d'Israël. Nous observons ce que Dieu a prescrit, et vous l'avez abandonné. Et voici que Dieu lui-même est avec nous pour nous commander, et ses prêtres avec des trompettes retentissantes pour sonner l'alarme contre vous. Ô, enfants d'Israël! Vous pouvez dire, ô, mon frère, ce sont des frères, ce sont des cousins, c'est la famille, ce sont des tantes et des oncles. Ô, Israël, ne combattez pas contre le Seigneur de vos pères, car vous ne prospérerez pas. Nous suivons la voie de Dieu. Nous avons les trompettes. Nous sonnerons l'alarme. Nous connaissons la promesse de Dieu. Ne nous combattez pas. Ne nous attaquez pas, vous êtes nos frères. Mettez-vous à leur place à ce moment-là. Verset 13. Mais Jéroboam fit venir une embuscade derrière eux. Ils se trouvaient donc devant Juda, et l'embuscade était derrière eux. Juda était donc complètement encerclé. Juda, d'une certaine manière, on pourrait dire que, humainement, ils les ont provoqués. Ils ont dit, « Hé, nous avons Dieu avec nous. Nous savons ce que nous faisons. Nous n'avons pas peur. » Et Jéroboam leur a tendu une embuscade. Continuons à lire. Et lorsque Juda se retourna, voici que la bataille était devant et derrière eux, et ils crièrent vers le Seigneur. La bataille était donc devant et derrière eux. Ils étaient complètement encerclés. Et ils crièrent vers le Seigneur, et les prêtres sonnèrent des trompettes. Ils prirent les chiffres 10 et 9, et les appliquèrent. Puis, au verset 15, alors les hommes de Juda poussèrent un cri. Et comme les hommes de Juda criaient, Dieu frappa Jéroboam et tout Israël devant Abija et Juda. Verset 16, et les enfants d'Israël s'enfuirent devant Juda, et Dieu les livra entre leurs mains. Ils ont sonné de la trompette, ils se sont souvenus de la promesse de Dieu, et Dieu les a sauvés de l'embuscade. Et Abija et son peuple. Verset 17, je veux lire cela aussi. Abija et son peuple les tuèrent dans un grand massacre, et 500 000 hommes d'élite d'Israël tombèrent morts. Réfléchissez-y un instant, car cela peut sembler n'être qu'une embuscade. C'était juste dans la terre promise. C'était juste en Israël. C'était juste quelques-uns. C'était à l'époque, dans les temps anciens. Mais au verset 17, cela donne une image, cela montre comment ils ont été encerclés, leur vie était en jeu, ils ont sonné la trompette, Dieu les a sauvés, et 500 000, un demi-million d'hommes d'Israël ont été tués. J'ai vérifié. C'était plus que le nombre de soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale pour nous. Alors, quel genre de bataille était-ce? Que se passait-il ici? Quelle était l'ampleur de la bataille? À quel point la situation de Juda était-elle désespérée? Et ils se sont souvenus du commandement, et Dieu les a sauvés. Parfois, les histoires anciennes du passé, oh, cela s'est passé à l'époque, comparé à aujourd'hui. 500 000 hommes ont perdu la vie parce que Juda a sonné la trompette et s'est appuyé sur Dieu. Ils ne l'ont pas fait, ils ont été avertis. Juste la force de l'histoire, la force du commandement de Dieu de sonner la trompette, la force de rechercher Dieu avant d'aller à la guerre, avant d'aller au combat. C'est l'une des bonnes histoires dont Israël s'est souvenu. Passons à Josué 10 et lisons une autre histoire. Décrivez la puissance qui se cache derrière la promesse. Et c'est incroyable. Juda était complètement encerclé par tant d'hommes, et Dieu les a soutenus. Passons à Josué 10, silence, et ici, nous allons lire où Dieu écoute l'homme. Il écoute Josué qui se trouve dans une situation désespérée. Et comme vous le verrez en étudiant l'Ancien Testament, non, toutes les batailles ne sont pas mentionnées, ils ont sonné la trompette ou ils n'ont pas sonné la trompette. Nous commençons à mettre en place ce que nous apprendrons plus tard, à savoir qu'il ne s'agit pas seulement de sonner la trompette. Il s'agit d'une instruction spirituelle profonde dans ce commandement. Il ne s'agit pas seulement de sonner physiquement la trompette, mais de rechercher Dieu avant d'aller au combat. Nous allons donc en lire quelques-uns où le mot « trompette » n'est pas mentionné à chaque fois, mais c'est le principe qui compte. Et ici, Josué, nous allons arriver à un verset qui est étonnant. Mais commençons par le verset 7, qui plante le décor. Josué monta de Gilgal, lui et tout le peuple de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes de guerre, et l'Éternel dit à Josué, « Ne crains point, car je les ai livrés entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Dieu promet donc ici de les protéger. Josué arriva donc soudainement dans le camp et monta de Gilgal toute la nuit, et l'Éternel les déconcerta devant Israël, qui les battit d'une grande défaite à Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Bethoron, et les frappa jusqu'à Azekah et Makeda. Et comme ils fuyaient devant Israël et descendaient vers Bethoron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah, et ils moururent. Ici, nous voyons que Dieu est avec eux dans cette bataille. Et Dieu jette de grosses pierres, qui semblent être des pierres de grêle venues du ciel. Ils mènent leur combat avec eux. Et ceux qui moururent par la grêle furent plus nombreux que ceux que les enfants d'Israël tuèrent à l'épée. Dieu en tua davantage. Josué parla alors à l'Éternel ce jour-là. C'est là que Josué cherche Dieu, s'adressant à lui avec une requête dans cette bataille. Lorsque l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, dans la vallée d'Ajalon. » Le soleil s'est arrêté, et la lune est restée immobile, jusqu'à ce que le peuple se soit vengé de ses ennemis. N'est-ce pas écrit dans le livre de Jachar? Le soleil s'est donc arrêté au milieu du ciel et n'est pas descendu pendant environ un jour entier. Josué est donc en pleine bataille. Josué cherche l'aide de Dieu, demande l'aide de Dieu. Et qu'a demandé Josué? Il cherche son aide, sonne de la trompette, cherche Dieu, se souvient de Dieu. Josué a demandé à Dieu d'arrêter l'univers tout entier. Pouvez-vous imaginer une telle demande? Pourriez-vous imaginer faire une telle demande, en sachant que Dieu va vous entendre? Alors qu'il est en pleine bataille, alors qu'il est en guerre, il cherche Dieu, il cherche l'aide de Dieu. Et oui, il est simplement dit que le soleil s'est arrêté et que la lune est restée immobile. Nous savons que l'univers tout entier est une horloge. Tout fonctionne comme une horloge. Si vous déplacez une chose, vous devez déplacer tout le reste. Josué a donc demandé, et l'univers s'est arrêté. À quel point est-il important de sonner de la trompette ou de rechercher Dieu dans les moments difficiles? Continuons notre lecture. Il n'y a eu jamais de jour semblable à celui-là, ni avant ni après, où le Seigneur écouta la voix d'un homme, car le Seigneur combattait pour Israël. Il n'y a jamais eu de jour semblable à celui-là où le Seigneur Dieu a entendu l'homme et arrêté l'univers. Quelle est l'importance de sonner de la trompette, de rechercher Dieu en période de trouble, en période de guerre? C'est une histoire incroyable. Et je pense que cela me rappelle presque une preuve secondaire de l'existence de Dieu, une preuve de la création de Dieu. Là où l'humanité, là où les astronomes ont observé les étoiles et savent que les étoiles bougent, et où ils ont essayé de remonter le temps. Et à mesure qu'ils remontent le temps dans leurs calculs, s'ils ne prennent pas en compte ces histoires, s'ils ne les intègrent pas dans leurs calculs, les choses commencent à dérailler lorsqu'ils calculent où les étoiles devraient se trouver. Juste cette petite chose où Josué a demandé à Dieu d'arrêter l'univers. Nous pouvons également ne pas faire de lien avec la raison pour laquelle il faut sonner de la trompette avant d'aller à la guerre, mais la puissance impressionnante de notre Créateur, Dieu, éprouvez si vous prenez les étoiles et remontez le temps dans leur mouvement. Si vous n'incluez pas ces versets dans vos calculs, l'univers se dérègle. Les choses se heurtent littéralement les unes aux autres. C'est incroyable. Cela ajoute l'histoire inspirante de Josué, qui a cherché l'aide de Dieu dans une période difficile, et les implications que nous voyons encore aujourd'hui. Examinons quelques mauvais exemples. Quelques exemples où Israël, les Israélites, l'humanité, la nature humaine ont pris le dessus, et où ils n'ont pas vraiment cherché Dieu avant de partir en guerre. Ils n'ont pas sonné de la trompette comme Dieu l'avait ordonné, et oui, il est si facile pour nous de dire, pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Regardez la promesse de Dieu. Maintenant, après avoir lu Josué, nous savons que Dieu arrêtera l'univers si cela est nécessaire, si cela est nécessaire en cas de difficulté, alors pourquoi ne sonneriez-vous jamais cette trompette? Pourquoi ne rechercheriez-vous pas Dieu en cas de difficulté? Bien sûr, nous sommes tous humains. Nous trébuchons. Lisons Nombre 14, et nous allons lire les versets 39 à 45, juste Israël dans l'Exode. Alors qu'il voyage à travers le désert, nous sommes dans l'ombre, cependant, Nombre 14. D'une certaine manière, nous ne sommes que quelques chapitres plus loin après que l'ordre ait été donné, après que l'instruction ait été donnée au sujet des trompettes. Et ici, il est question de rechercher la terre promise, d'y entrer, de l'explorer. Commençons par lire le verset 39. Une partie du peuple d'Israël avait une opinion différente sur la marche à suivre. En fin de compte, ils n'ont pas recherché la volonté de Dieu et ont en fait reçu des instructions contraires. Passons au verset 39. Moïse rapporta ces paroles à tous les enfants d'Israël, et le peuple poussa de grands cris. Ils ne monteront donc pas dans la terre promise pour le moment. Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet de la montagne, en disant, « Voici, nous sommes ici, et nous monterons dans le lieu que l'Éternel a promis, car nous avons péché. » Ils regardèrent donc le sommet de la montagne, ils regardèrent la terre promise, et dirent, « Voici, nous sommes ici, nous pouvons y entrer et la conquérir pour nous-mêmes. » Et Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous maintenant le commandement du Seigneur? Mais vous ne prospérerez pas. Ne montez pas, car le Seigneur n'est pas parmi vous, afin que vous ne soyez pas frappés devant vos ennemis, car les Amalécites et les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés du Seigneur, le Seigneur ne sera donc pas avec vous. » Mais ils ont osé monter au sommet de la colline. Ils ont donc présumé. Ils n'ont pas cherché Dieu. Ils n'ont même pas écouté les instructions de Moïse. Ils n'ont pas vu le commandement de Dieu qui dit, « Lorsque vous partez en guerre, cherchez-moi, sonnez de la trompette. Rappelez-moi que vous êtes en guerre. » Non, ils ont présumé monter au sommet de la colline. Néanmoins, l'arche de l'alliance du Seigneur et Moïse ne quittèrent pas le camp. Et les Amalécites descendirent, les Cananéens qui habitaient la colline, et les frappèrent, et les mirent en déroute, jusqu'à Horma. Ils ont donc perdu la bataille. Ils ont présumé, ils n'ont pas cherché Dieu, et quand Dieu leur a donné des instructions, ils les ont ignorées. On se demande pourquoi ils ont si vite oublié le commandement de sonner de la trompette avant d'aller à la guerre, afin de rechercher les instructions de Dieu. C'est étonnant, même si le serviteur de Dieu leur a dit de ne pas le faire, ils y sont allés quand même. Passons au premier livre de Samuel, chapitre 4. Il y a ici une histoire intéressante, Un exemple de la présomption d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 4, verset 2. Dans tous ces cas, lisons quelques versets pour comprendre le contexte, pour avoir une idée de l'histoire, de ce qui se passe et de ce qu'ils font. Et ici, ils ont simplement reçu l'instruction. Je suis sûr qu'elle leur a été répétée souvent. Je suis sûr qu'ils savaient ce que disait Nombre 10, verset 9. Mais ici, Israël, les humains, la nature humaine ont agi un peu différemment. Lisons et entrons dans l'histoire au verset 2. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et lorsqu'ils engagèrent le combat, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ 4000 hommes de l'armée sur le champ de bataille. Les choses ne se passent pas bien pour les Israélites. Et lorsque le peuple fut rentré au camp, les anciens d'Israël dirent, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il battus aujourd'hui devant les Philistins ? Allons chercher l'arche de l'alliance du Seigneur à Silo, afin qu'elle vienne parmi nous et nous sauve de la main de nos ennemis. » C'est curieux. Allons chercher l'arche de l'alliance. Nous verrons les effets que cela aura. C'est comme si l'arche de l'alliance était un petit bibelot qu'ils pouvaient emporter avec eux au combat. Pourquoi ne dit-il pas, nous allons tous lire ceci, et comme si nous étions là-bas, pourquoi ne pas prendre la trompette? Regardez ce qui s'est passé lorsque Josué a cherché Dieu. Pourquoi ne pas rechercher Dieu avant de partir? Ils ne disent même pas, recherchons Dieu avant de déplacer l'arche. Déplaçons simplement l'arche. Comme si c'était, comme le monde l'appellerait, un bibelot porte-bonheur, un porte-bonheur. Voyons son effet. Le peuple envoya donc à Silo pour faire venir de là l'arche de l'alliance du Seigneur des armées, qui habita entre les chérubins. Les deux fils d'Eli, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance du Seigneur. Lorsque l'arche de l'alliance du Seigneur entra dans le camp, tout Israël poussa un grand cri, et la terre retentit. Ils pensent que s'ils ont l'arche physique, tout ira bien. Eh bien, ce n'est pas le cas. Verset 6. Lorsque les Philistins entendirent le bruit du cri, ils dirent, que signifie ce grand cri dans le camp des Hébreux? Et ils comprirent que l'arche de l'Éternel était entrée dans le camp. Et les Philistins eurent peur. Ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils pensent qu'elle a le pouvoir. Et ils dirent, « Dieu est sorti du camp. » Et ils dirent, « Malheur à nous. » Car il n'y a jamais eu une telle chose jusqu'à présent. Il n'y a jamais eu une telle chose auparavant. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main des dieux puissants? Ce sont les dieux qui ont frappé les Égyptiens et les plaies dans le désert. Soyez forts. Les Philistins parlent, se motivent, soyez des hommes, ô Philistins, afin de ne pas être les serviteurs des Hébreux, comme ils l'ont été pour vous. Comportez-vous en hommes et combattez. Les Philistins combattirent, Israël fut battu, et chacun s'enfuit dans sa tente. Il y eut une très grande tuerie, car 30 000 hommes de pied d'Israël tombèrent. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, furent tués. Voici donc une histoire triste, une histoire décevante, un exemple pour nous. L'utilisation abusive de l'arche. Ils n'ont pas cherché Dieu, ils ont seulement cherché la protection d'un objet physique. Ils n'ont pas sonné la trompette. Et là, deux prêtres ont été tués, et l'arche a été volée. Passons à une autre histoire. Juges 20, verset 18. Juges 20, verset 18, où nous passons à une histoire qui, certes, ne mentionne pas de trompette, mais où les personnages sont en proie à des difficultés. Il s'agit d'une autre guerre civile avec l'une des tribus. Un exemple où ils cherchent en quelque sorte Dieu. Dieu a une leçon à leur enseigner. C'est finalement une leçon pour nous aussi. Eh bien, Juge 20, verset 18. Nous allons le lire à partir du verset 18. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à la maison de Dieu, consultèrent Dieu et dirent, « Qui de nous montra le premier au combat contre les enfants de Benjamin ?» Et l'Éternel répondit, « Juda montra le premier. » Les enfants d'Israël se levèrent le matin et campèrent contre Giba. Dès qu'Israël sortit pour combattre Benjamin, les hommes d'Israël se rangèrent en bataille contre Gaba, et les enfants de Benjamin sortirent de Gaba et détruisirent ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Cela ne s'est pas bien passé. Le peuple d'Israël se réconforta et se rangea de nouveau en ordre de bataille à l'endroit où il s'était rangé le premier jour. Ils partent donc au combat pour la deuxième journée. C'est intéressant, c'est juste la façon dont c'est écrit, mais je me demande, le Seigneur a dit, Juda montra le premier, et il est question des hommes d'Israël. Il n'est pas dit que Juda ait monté le premier. Israël a-t-il pleinement suivi les instructions de Dieu? Nous en sommes réduits à nous poser la question, car au verset 23, ils consultent à nouveau Dieu. Les enfants d'Israël montèrent et se présentèrent devant l'Éternel jusqu'au soir, et ils consultèrent l'Éternel, en disant, « Dois-je monter au combat contre les enfants de Benjamin, mon frère ?» Et l'Éternel leur répondit, « Montez contre eux. » Le Seigneur dit donc, « Montez. » Les enfants d'Israël s'approchèrent des enfants de Benjamin le deuxième jour, et Benjamin sortit de Giba le deuxième jour et détruisit les enfants d'Israël jusqu'au sol. Le deuxième jour, 18 000 hommes qui avaient tiré l'épée sont tués. Cela ne se passe donc pas bien. Dieu leur donne finalement une leçon. Toutes les batailles ne sont pas gagnées, mais c'est la guerre, et finalement, ils gagnent. Vous vous demandez peut-être si c'est parce que Juda n'est pas monté le premier jour. Il ne suivait pas les instructions, il ne cherchait pas Dieu autant qu'il le pouvait ou le devait, car cela apparaît clairement au verset 26. Alors tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et entrèrent dans la maison de Dieu. Ils sont donc montés au temple. Non, à l'époque, ils sont montés au tabernacle. Ils s'assirent là devant l'Éternel, jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir, et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Les choses ne vont donc pas bien. Ils ont compris le message et ils vont chercher Dieu d'une manière plus intense. Ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont fait des offrandes et des sacrifices. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, car l'arche de l'Alliance était là en ces jours-là. Cela se passe avant l'histoire précédente. Éphiné, fils d'Éléazar et fils d'Aaron, se tenait devant elle en ces jours-là, disant, « Dois-je encore sortir pour combattre les enfants d'Israël, mon frère, ou dois-je cesser ?» Et le Seigneur dit, « Monte, car demain je les livrerai entre tes mains. » Ici, Dieu voulait qu'il le cherche davantage, qu'il le recherche plus intensément. Parfois, oui, l'enseignement ou l'aide qui nous est donnée ici est que nous devons parfois continuer à rechercher Dieu de manière plus intense pour la bataille, le combat, les luttes que nous menons dans notre vie et qui ne se déroulent pas exactement comme nous le souhaiterions. Encore une fois, il y a parfois des batailles que nous ne gagnons pas ici avec l'ancien Israël, mais nous continuons à rechercher Dieu pour finalement, dans ce cas, gagner la guerre. Cependant, en parcourant certaines des histoires qui s'y trouvent, nous avons vu qu'il y en a beaucoup d'autres à découvrir. Il est inspirant de voir ce que Dieu a fait dans le passé et cela nous encourage aujourd'hui, mais nous pouvons voir que lorsqu'ils ont cherché Dieu en premier lieu, Israël a gagné. Lorsqu'ils ont appliqué cette instruction de sonner la trompette, de chercher Dieu, ils ont gagné, et simplement lorsqu'ils ne l'ont pas fait, ils ont perdu des batailles et des guerres. Allons lire l'histoire du roi Asa dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, qui résume ce que je viens de dire et en donne un exemple. Le roi Asa, deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, et tout son règne ont une histoire intéressante et des leçons à tirer, mais je voudrais m'arrêter ici sur quelques déclarations résumées à la fin de son règne ou vers la fin de son règne. C'est intéressant, quand on y repense, parfois on peut jouer les experts du lundi soir et se demander pourquoi Asa a fait cela. Lisons simplement. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 16, verset 7. À cette époque, Hanani, le voyant, prophète de Dieu, vint vers Asa, roi de Juda, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. » Il est intéressant de voir comment les Écritures sont inversées lorsque nous lisons la suite. Le serviteur de Dieu lui dit donc, « Tu ne t'es pas appuyé sur Dieu, c'est pourquoi la Syrie t'a échappé. » Mais cependant, verset 8, « Nous ne sommes pas les Éthiopiens et les Libyens, une immense armée, une armée innombrable et de très nombreux chars et cavaliers, mais parce qu'à ce moment-là, toi, le roi, tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les a livrés entre tes mains. » Il y eut donc un temps où le roi Asa se souvint de chercher Dieu, se souvint de sonner la trompette, et Dieu le livra à une armée innombrable, une armée nombreuse en abondance. La marge dit, de nombreux chars et cavaliers. Plus tard dans sa vie, il oublia et la Syrie lui échappa. Verset 9, car les yeux du Seigneur parcourent toute la terre pour montrer sa puissance en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. En cela, tu as agi sottement, c'est pourquoi, désormais, tu auras des guerres. Le roi donc agit de manière insensée, il s'en souvenait, il savait. Il ne se souvenait pas de ce qu'il savait autrefois. Il a oublié d'invoquer Dieu, il a oublié de rechercher Dieu, et le serviteur de Dieu lui dit, « C'est pourquoi, pour le reste de ton règne, tu auras des guerres. » Cela nous rappelle un peu un roi. Ce roi nous rappelle un peu ceux qui se souviennent des promesses de Dieu et ceux qui ont oublié les promesses de Dieu, qui ont oublié qu'il est là pour nous, qui ont oublié qu'il mènera nos combats. Comment Dieu a-t-il qualifié les actions d'Asa? Tu as agi de manière insensée. Ceux qui ne sont plus parmi nous et qui ont oublié les promesses de Dieu ont agi de manière insensée, ils ont oublié, et un roi peut aussi, comme nous le voyons ici. Ce n'est qu'un exemple et un rappel pour nous tous, afin de ne pas oublier, bien sûr, mais quand Israël a cherché Dieu, quand Israël a sonné la trompette, Israël a gagné. Quand vous cherchez, quand nous, vous, Israël, cherchez Dieu en premier. Voyons comment Dieu combat. Nous avons vu quelques exemples, mais je voudrais en voir quelques autres. Comment Dieu combat-il ? Maintenant, Dieu est de votre côté. Vous avez sonné de la trompette, vous l'avez cherché, comment Dieu combat-il pour vous? Nous sommes dans les chroniques, passons à la deuxième chronique, chapitre 20. Ces récits, ces exemples écrits pour notre instruction, devraient nous inspirer ici, car il y a une longue prière que je voudrais lire. Ici, je vais voir comment Dieu mène ses combats pour nous. Commençons donc la lecture au verset 1. Après cela, les enfants de Moé et les enfants d'Amon, avec d'autres peuples en plus des Amoréens, vinrent attaquer Josaphat. Alors quelqu'un vint dire à Josaphat, « Une grande multitude vient contre toi, de l'autre côté de la mer, de Syrie, et voici, ils sont à Hazer-Zon-Tamar, qui est en Gédi. » Josaphat eut peur, et il se mit à chercher l'Éternel, et il proclama le jeûne dans tout Juda. C'est un bon exemple. Juda se rassembla pour demander de l'aide à l'Éternel. Ils vinrent chercher Dieu dans toutes les villes de Juda. Josaphat se tint au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Il se tient donc ici dans le temple de Dieu. Et il dit, Seigneur, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu? Voici donc la prière de Josaphat au ciel. Et ne règnes-tu pas sur tous les royaumes des nations? Et dans ta main, il n'y a ni puissance ni force, de sorte que nul ne peut te résister. Josaphat implore Dieu de lui venir en aide. Il cherche l'aide de Dieu. N'es-tu pas notre Dieu, toi qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, Israël, et qui l'a donné à la postérité d'Abraham, ton ami pour toujours? Quelle promesse formidable dans la parole de Dieu au sujet d'Abraham! Un compliment formidable pour le Père des fidèles. Ami pour toujours. Et il poursuit, ils y habitaient, ont construit un sanctuaire pour ton nom, en disant. Ainsi, le peuple de Dieu habite sur cette terre, il t'a construit, Dieu, un temple. Si le malheur nous frappe sous forme d'épée, de jugement, de peste ou de famine, nous nous tiendrons devant cette maison et en ta présence, car ton nom est dans cette maison, et nous crierons vers toi avec affection, alors tu nous écouteras et tu nous aideras. Et maintenant, voici les enfants d'Ammon, de Moé et du mont Séir, que tu n'as pas laissé Israël envahir lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, mais ils se sont détournés d'eux et ne les ont pas détruits. Vois, dis-je, comment ils nous ont récompensés en venant nous chasser de ta possession. Ils vont venir nous chasser de la terre promise que tu nous as donnée en héritage. Ô notre Dieu, ne les jugeras-tu pas? Suppliant, cherchant, nous en arriverons aux pointes où Dieu combattra. C'est un grand commandement qui s'oppose à nous. Nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont tournés vers toi. Et tout Juda se tenait devant toi, Seigneur, avec leurs petits, leurs femmes et leurs enfants. Tout le pays se tient devant Dieu. Tout le peuple, les petits et leurs femmes. Quel moment! Alors l'Esprit du Seigneur vint sur Jaaziel, fils de Zacharie, fils de Bneïa, fils de Jéhiel, Lévite, fils d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Il vint donc là avec les instructions de Dieu. Et il dit, écoutez, Juda et tous les habitants de Jérusalem, et vous, roi Josaphat. Ainsi vous dit le Seigneur, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette grande multitude. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, descendez au combat. Après cette prière, le combat commence, ce n'est pas votre combat. C'est le mien. Lisons quelques versets supplémentaires. Pouvez-vous imaginer entendre ces paroles? Vous n'avez pas besoin d'aller au combat. Moi, Dieu, j'irai au combat pour vous. Demain, descendez contre eux. Voici, ils montent de la falaise de Ziz. Vous les trouverez à l'extrémité du ruisseau, devant le désert. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille, mais tenez-vous prêts, restez calmes et voyez le salut du Seigneur avec vous, ô Juda et Jérusalem, ne craignez rien et ne vous effrayez pas. Demain, allez à leur rencontre, car le Seigneur sera avec vous. Et ils ont remporté cette bataille. Dieu est allé combattre avec eux. Passons à Ésaïe 31 pour nous faire une idée de la manière dont Dieu combat. Dieu dit, « La bataille m'appartient. » En substance, Josaphat, déposez vos armes. Ne craignez rien, la bataille m'appartient. J'irai et je le ferai. Passons au chapitre 31 d'Ésaïe. Comment Dieu fait-il la guerre? Comment Dieu mène-t-il ce combat? Commençons au verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher de l'aide. Et nous apprenons comment Dieu fait la guerre. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher de l'aide, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à des chars parce qu'ils sont nombreux, et à des cavaliers parce qu'ils sont très forts. mais ils ne regardent pas vers le Saint d'Israël, ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils ont donc oublié. Nombre 10 verset 9. Ils ont oublié de sonner la trompette. Ils ont oublié de chercher leur Dieu. Ils vont en Égypte. Ils vont à la guerre. Que dit le verset 2? Mais il est aussi sage et il fera venir le mal, et il ne reviendra pas sur ses paroles, mais il se lèvera contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Dieu se lèvera contre eux. Or, les Égyptiens sont des hommes et non des dieux. Les Égyptiens sont physiques et non spirituels, et leurs chevaux sont de chair et non d'esprit. Imaginez la différence. Laissez cela vous imprégner. Les chevaux sont de chair. Les chevaux sont physiques. Vous allez donc chez les Égyptiens. Transposons cette analogie à aujourd'hui. L'Égypte est un symbole du monde. Nous l'enseignons souvent. Vous y allez donc avec tous vos armements modernes, votre technologie moderne, vos armes modernes. Vous avez foi en tout cela, et c'est incroyable ce que l'homme peut faire, et nous le voyons quotidiennement sur nos écrans. Le mal que l'homme a trouvé à faire, le mal que l'homme peut faire avec tous ses armements. Dieu dirait la même chose ici. Il dirait la même chose à propos de chacun d'entre eux. Tous ces missiles, tous ces navires, tous ces porte-avions, ils sont physiques. Ils ne sont pas spirituels. Ils sont chair et je suis Dieu. Je suis esprit. Que puis-je faire? Que peut faire Dieu pour nous? Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide, continuez à lire au verset 3. Tombera, et celui qui a aidé tombera, et ils échoueront tous ensemble. Ce n'est vraiment pas un combat. Le physique contre le spirituel. Peu importe à quel point l'homme est doué pour cela, vous ne pouvez pas franchir cette frontière. Car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lionceau rugissant sur leur proie. Il les a appelés contre eux. Il ne craindra pas leur voix et ne s'abaissera pas devant leur bruit, ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre pour la montagne de Sion et pour sa colline, comme un lionceau sur sa proie, pour l'attaquer, pour la renverser, pour l'éliminer. C'est ainsi que Dieu combattra. Il n'y a pas de défi pour Dieu quand c'est physique contre spirituel. Et au verset 5, et comme des oiseaux qui volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant, il la délivrera, en passant au-dessus, il la préservera. Ainsi, comme un oiseau de proie, comme un aigle avec des ailes, et nous savons que Dieu a des ailes, il va au combat contre nous, vole contre l'ennemi et le conquiert. Ainsi, Dieu va au combat pour nous. C'est ce que Dieu a entre les mains lorsque nous nous tournons vers lui pour qu'il mène nos combats à notre place. Une image étonnante, comme un lion et un jeune lion rugissant sur sa proie, comme un oiseau de proie dans le ciel, Dieu nous défendra, défendra son peuple. C'est lui qui est avec nous lorsque nous recherchons Dieu en premier lieu dans nos difficultés. Nous avons commencé à parler du physique contre le spirituel. Parlons un peu de la manière dont nous partons en guerre, dont nous menons le combat. Oui, nos combats sont principalement de nature spirituelle, mais il existe un commandement dans le Nouveau Testament similaire à celui de Nombre 10 verset 9. Mais allons simplement à Nombre 10 verset 9 pour le relire. Rappelons-nous ce passage, où je vais le feuilleter, puis nous passerons à 1 Pierre 5 verset 6, si vous voulez bien ouvrir votre Bible à cette page. Ouvrez maintenant à cet endroit, et je vais relire Nombre 10 verset 9. Et pendant que nous l'écoutons à nouveau, pensez davantage à l'élément spirituel, d'abord à l'élément physique des exemples d'Israël. Si vous partez en guerre sur votre territoire contre l'ennemi qui vous opprime, vous sonnerez l'alarme avec les trompettes, Et vous serez rappelés devant l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. Si vous vous souvenez de Dieu dans les moments difficiles, vous sonnez les trompettes. Vous cherchez Dieu, il se souviendra de vous et il vous sauvera. Allons-y maintenant, allez. Vous y êtes, je vous rattrape. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Je vais lire les versets 6 et 7. Il y en a un autre, similaire. Il est formulé de la même manière, mais il a le même sens. Humiliez-vous donc. Juste au début du verset 6. Sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment opportun. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est la même chose que de sonner de la trompette avant d'aller à la guerre. Prenez tous vos soucis, toutes vos pensées anxieuses, toutes vos inquiétudes, et remettez-les à Dieu, et il prendra soin de vous. Sonnez de la trompette dans nos difficultés, cherchez Dieu dans nos difficultés, et il nous libérera. Et nous pouvons considérer le côté physique et le côté spirituel. Nous ne partons pas au combat, nous ne partons pas en guerre, mais nous avons des épreuves, nous avons des tribulations, nous avons des tests, des difficultés, des persécutions, nous avons des soucis et de l'anxiété, des pensées, des problèmes. Allez vers Dieu avec eux. Sonnez de la trompette. Cherchez Dieu lorsque ces choses surviennent dans nos vies. Mais nous sommes des soldats chrétiens. Apprenons. Comment devons-nous aller à la guerre? Commençons par mettre quelque chose en place ici. Passons à la deuxième épître à Timothée, chapitre 2. Peut-être un petit rappel, mais pourquoi dis-je que nous sommes des soldats chrétiens ou des soldats en Christ? Nous allons lire la deuxième épître à Timothée, chapitre 2 à 4. Les analogies sont utiles, les analogies sont inspirantes et les analogies sont motivantes. Dieu les a mises dans sa parole pour une bonne raison. Devrions-nous commencer à lire au verset 2? Et ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui seront capables d'enseigner aussi d'autres. Verset 3. Concentrez-vous sur le verset 3. Supporte donc les souffrances, comme un bon soldat du Christ. C'est ce que nous sommes. Et si quelqu'un lutte, je voudrais vraiment lire le verset 5 également. Si quelqu'un lutte pour la victoire en tant que soldat, selon mon interprétation, il n'est pas encore couronné, à moins qu'il ne lutte. Oh, non, j'ai sauté quelque chose ici. Attendez une seconde. Très bien. Verset 3. Bon, allons-y. Verset 3. Supporte donc les souffrances, comme un bon soldat du Christ. Aucun homme qui fait la guerre ne s'embarrasse des affaires de cette vie, afin de plaire à celui qui l'a choisi pour être soldat. Nous devons donc supporter les épreuves, les difficultés et les afflictions, et nous recevons des instructions sur la manière de supporter ces épreuves, de ne pas nous laisser entraver par les poursuites mondaines. Oui, bien sûr, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne pouvons pas nous y enchevêtrer. Si nous sommes amis du monde, nous sommes ennemis de Dieu. Nous devons veiller à ne pas l'être. Et en tant que bons soldats du Christ, la seule façon d'y parvenir est de rester détaché du monde. Et oui, c'est une bataille spirituelle. Passons à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Oui, deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 3. L'analogie du guerrier qui va combattre au nom du Christ. Dieu sait que cela existe, que cela nous préoccupe. Cela nous touche au plus profond de notre cœur, pourrait-on dire. Cela nous motive. Mais je dirais personnellement que parfois, Il est difficile de faire cette analogie lorsque l'on passe à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10. Il est difficile de voir cela tel que nous sommes. Comme moi, par exemple, je n'ai jamais fait la guerre. Je n'ai jamais eu à enfiler un uniforme, à aller dans les tranchées, à faire la guerre. Je ne sais pas ce que c'est que d'être pris pour cible. Je ne sais pas ce que c'est que de tirer. Vous savez, même l'opportunité que j'ai eue en grandissant au Canada, les Américains ne pensent peut-être pas que c'était une opportunité, mais grandir au Canada, c'était une opportunité. Je n'ai jamais tenu une arme à feu entre mes mains. Je ne sais pas ce que cela fait. D'accord. J'ai peut-être tenu un fusil à air comprimé. Je ne comprends pas ce que cela fait de tenir entre ses mains une arme à feu qui pourrait ôter la vie à une autre personne. Peut-être que vous êtes dans la même situation aujourd'hui. Ceux qui sont allés à la guerre sont peu nombreux, très peu nombreux, mais l'analogie touche nos cœurs, touche nos esprits, et Dieu l'a mise là pour une bonne raison. Cela peut être difficile pour nous, mais c'est là et nous pouvons y réfléchir. Passons à « Vous êtes tous là », 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Car, bien que vous marchiez dans la chair, vous ne combattez pas selon la chair. Nous allons approfondir un peu la distinction entre le physique et le spirituel. Car vous marchez dans la chair, vous ne combattez pas selon la chair. Verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par Dieu, pour renverser des forteresses, pour détruire des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous devons être des guerriers chrétiens, des soldats du Christ, et ici, nous avons une instruction, nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Quelle instruction, quel commandement, et combien il est difficile de prendre chaque pensée que nous avons, et de la soumettre à elle, à Dieu. Nous ne pourrons pas le faire tant que nous ne serons pas parfaits et que nous n'aurons pas rejoint la famille de Dieu, mais quelle lutte! Mais quelle analogie avec un soldat physique aujourd'hui? Pourriez-vous vous imaginer être l'un de ces hommes coincés dans les tranchées en Ukraine, de part et d'autre du conflit, ou l'un de ces hommes qui doivent s'engouffrer dans les tunnels en Israël, au Liban ou en Palestine? Vous devez y aller contre toute attente, sachant que vous allez être pris pour cible. Vous devez contrôler chacune de vos pensées. Vous devez mettre de côté toutes vos inquiétudes. Et quand votre commandant vous dit « Allez dans ces tunnels », vous y allez. Quand votre commandant vous dit de sortir de cette tranchée et de courir sous le feu ennemi, vous le faites. Pouvez-vous vous mettre à leur place? Pouvez-vous vous mettre dans leurs bottes, dans leur situation? C'est difficile. C'est dur. Ces hommes peuvent le faire physiquement pour un objectif physique et une raison physique. Alors que nous combattons les choses spirituelles avec nos armes, que nous dit Dieu de faire? Soumettez toute pensée à Christ et obéissez à Christ. Si nous pouvons le faire et que nous nous efforçons de le faire, nous pouvons réussir. Nous pouvons relever ces défis. Tous les hommes qui font partie de ces unités et qui commencent à faiblir, qui commencent à ne plus soumettre toutes leurs pensées à leur commandant, à leur capitaine, et nous disons, à notre Dieu, ne réussiront pas. Nous devons le faire. Gardez cette analogie à l'esprit. Ils sont prêts à courir vers la mort sur ordre, nous sommes prêts à courir notre course, à soumettre chaque pensée au Christ. À quel point cela serait-il difficile, et à quel point voulons-nous nous efforcer d'y parvenir? Nous venons de lire à propos de nos armes. Permettez-moi de revenir en arrière un instant. Nos armes de guerre ne sont pas charnelles, mais quelles sont nos armes? Quelle est notre armure? Dieu nous laisse une instruction. Dieu nous laisse la capacité de savoir ce que nous devons porter, quelle doit être notre armure. Oui, il nous a été demandé de rechercher Dieu avant d'aller à la guerre, de rechercher Dieu dans les moments difficiles, de sonner la trompette. Mais ici, c'est la pensée de Dieu. Revenons aux soldats dont nous venons de parler, que ce soit au Moyen-Orient, en Ukraine ou en Russie. Voici l'armure dont nous disposons. Romains 13, verset 12. Telle est la pensée de Dieu. Vous vous souvenez comment il se bat pour nous? Et pouvez-vous imaginer entrer dans un tunnel et revêtir cette armure? C'est pourquoi nous menons ici des combats spirituels, et non physiques. Donc, dans Romains 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. À quel point pouvons-nous dire cela à notre époque? Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. L'armure que Dieu nous donne est donc une armure de lumière. Imaginez-vous partir au combat dans les plaines et les champs d'Ukraine, revêtus d'une armure de lumière, ou entrer dans un tunnel et voir votre armure illuminer le tunnel. Que penseraient les soldats qui vous accompagnent? Ils vous prendraient pour un fou. Ils penseraient que vous avez perdu la tête. Physiquement, ils essaieraient probablement de vous éliminer, car vous les élimineriez avec votre lumière aveuglante. Mais c'est l'instruction de Dieu. C'est ce que Dieu nous donne. Revêtons l'armure de lumière. Lisons donc ce qu'est cette armure, ce que Dieu veut que nous revêtions. Allons à Éphésiens 6. Pouvez-vous imaginer à quel point vous seriez ridicule dans n'importe quelle bataille de l'histoire de l'humanité si vous revêtiez cette armure appelée l'armure de lumière? Eh bien, nous ne sommes pas dans ces batailles. Nous sommes engagés dans des combats différents, des combats spirituels. Et cette armure de lumière attire l'attention sur nous alors que nous sommes dans ce monde, et ce monde devient chaque jour plus sombre. Nous avons également besoin de cette armure de lumière. Nous sommes ici dans Éphésiens chapitre 6, un chapitre familier, avec des versets familiers sur l'armure de Dieu. Nous commencerons la lecture au verset 10. Nous le lirons en entier. Je vais le citer, puis nous le commenterons. Hébreux 6, verset 10. Enfin, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Assurez-vous de tout revêtir, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les ruses du Dieu de ce monde. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà donc contre quoi nous luttons. Et lorsque nous avons cette armure de lumière, les esprits dans les lieux célestes peuvent nous voir. Nous n'avons rien à craindre. Dieu est avec nous. Continuons à lire le verset 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Numéro 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la fin de la description de l'armure de Dieu. Examinons cela de plus près, car au verset 12, nous avons vu notre champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, nous sommes physiques. Oui, nous avons le Saint-Esprit pour nous aider et Dieu pour nous aider. Mais sur ce champ de bataille, nous voulons absolument sonner de la trompette. Nous voulons absolument rechercher notre Dieu. Si vous voyez le champ de bataille que nous avons contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre ce monde, nous voulons nous assurer que Dieu est de notre côté. Nous voulons nous assurer de sonner de la trompette. Maintenant, examinons de plus près l'armure de Dieu. Verset 14. Vos reins. Je viens de déplacer deux mots. Désolé. Saignez vos reins de vérité. Il est intéressant de noter que nous n'avons pas nécessairement ce problème aujourd'hui, mais cela rend les choses beaucoup plus claires. Saignez vos reins de la vérité. Dans l'Antiquité, les rocs que l'on portait au Moyen-Orient, dans la culture de l'époque. Même il y a quelques années seulement, il y a quelques siècles, les hommes portaient des kilts ou des robes. Et quand on en porte, on ne peut pas courir très vite. On ne peut pas très bien bouger avec, surtout si elles vont jusqu'au sol. Alors, imaginez la scène. Saignez vos reins de la vérité. Vous avez donc relevé votre robe et vous l'avez attachée fermement autour de vos reins, autour de votre taille, afin de pouvoir bouger. Vous êtes donc prêt à agir. Vous êtes prêt à vous activer. Vous êtes prêt à courir. C'est ce que la vérité de Dieu fait pour nous, ce qu'elle nous apporte. Nous acceptons la vérité de Dieu. Nous vivons selon la vérité de Dieu. Nous vivons selon la voie de Dieu. Nous avons relevé nos jupes. Cet homme a une robe, oui. C'est ce que nous avons fait. Nous relevons nos robes, nous nous saignons les reins et nous sommes prêts à agir. Nous sommes prêts à bouger. C'est ce que la vérité de Dieu nous permet de faire. Et revêtu de la cuirasse de la justice, car la cuirasse couvre notre poitrine, nos organes les plus importants et les plus vitaux. Vivre dans la justice, suivre la voie de Dieu, mettre la vérité en pratique, protège notre cœur, protège nos poumons, protège nos organes les plus importants. Oui, encore une fois, tout cela fait partie d'une armure de lumière. Si vous vivez la vérité, si vous mettez la vérité en pratique, si vous vivez dans la justice dans ce monde, cette lumière brillera plus fort. Et le verset 15 est la suite. Et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de la paix. Ainsi, les sandales que vous portez, les sandales de l'évangile, les chaussures de l'évangile, les bottes de l'évangile, vous donnent une direction dans la vie. Que devons-nous rechercher en premier ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile ? L'évangile est la vérité du royaume de Dieu à venir, qui nous donne une direction, qui nous donne un sens à notre vie comme nul autre, qui nous donne, lorsque nous sommes dans elle, dans les tranchées, dans les tunnels proverbiaux de notre vie, lorsque nous sommes sur ce champ de bataille spirituel, ce but qui nous pousse, nous guide, nous fait avancer. Nous avons besoin de ces bottes. Nous avons besoin de ces sandales. Et vous pouvez voir. Relisez. Vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de la paix. L'évangile de Dieu. L'évangile du royaume de Dieu à venir vous donne une direction, vous donne un but. Et surtout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous éteindrez, donc le bouclier de la foi, éteindra les flèches enflammées, ou les doutes que j'ai écrits dans ma marge, des méchants de ce monde. Pensez aux nouvelles récentes, nous avons déjà vu cela auparavant et nous le reverrons peut-être, les missiles qui ont été tirés sur Israël. Ici, nous avons un bouclier. Pensez à leur dôme de fer ou à leur David Sling. Ce sont deux systèmes dont ils disposent pour se protéger. C'est notre bouclier. Notre bouclier est un bouclier physique. Notre bouclier ne faillira jamais si et quand nous l'utilisons. Continuons avec le casque du salut. L'espoir du salut. L'espoir que nous avons que Dieu nous appelle ses fils et ses filles, que Dieu nous donnera par ses grâces, Le salut. Une occasion d'être dans sa famille. L'occasion d'être avec lui et de régner avec lui. Protège nos esprits. Il protège notre esprit, notre cerveau, notre façon de penser. Et l'épée de l'esprit, qui est bien sûr la parole de Dieu, nous aide à discerner, et nous sommes dans un combat spirituel, à discerner entre le bien et le mal, à discerner entre le juste et l'injuste. Sans manier cette épée, nous ne pouvons pas voir la différence aussi bien. Nous ne pouvons pas voir aussi bien ce qui est juste et ce qui est injuste. Nous revêtons tout cela. Nous avons revêtu l'armure de lumière. Nous avons revêtu l'armure de Dieu qui nous aidera dans nos combats. Dieu nous donne des instructions claires sur ce que nous devons faire, sur ce dont nous devons nous revêtir, sur ce dont nous devons nous armer dans tous nos combats. Nous avons vu quel est notre champ de bataille. Nous avons vu quel est le champ de bataille d'Israël. Mais dans tout cela, il s'agit simplement de remettre tous vos soucis à Dieu. Nous allons simplement sonner la trompette, chercher Dieu, nous détendre et nous relaxer. Dans une certaine mesure, oui, mais bien sûr que non. Nous avons un combat permanent à mener. Passons à 1 Timothée 6, verset 12. 1 Timothée 6, verset 12. Bien sûr, ce n'est pas parce que nous avons sonné de la trompette, ce n'est pas parce que nous avons remis tous nos soucis à Dieu, que nous devons nous reposer sur nos lauriers. 1 Timothée 6, verset 12. Et ici, Paul encourage Timothée en lui disant, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession de foi devant de nombreux témoins. Combat donc le bon combat de la foi. C'est un combat. C'est un combat quotidien. C'est un combat que nous gagnons, certes, lorsque nous recherchons Dieu en premier lieu, mais c'est un combat que nous devons mener chaque jour. Passons à 1 Corinthiens 9, verset 24. Un autre passage similaire, mais 1 Corinthiens 9, verset 24. Un autre encouragement de Paul. 1 Corinthiens 9, verset 24. Je ne sais pas si vous savez que ceux qui courent dans une course courent tous, mais reçoivent le prix. Ils courent donc pour l'obtenir. Il parle de ceux qui, dans le monde, courent pour gagner le prix. Ces soldats passent sous ces tunnels, ces soldats sortent de ces tranchées, ils le font pour gagner. Ils contrôlent leur esprit pour gagner cette guerre, pour courir. Et tout homme qui lutte pour la maîtrise est tempéré en toutes choses. Maintenant, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font donc, en pensant à ces soldats, pour gagner une guerre physique. Mais nous le faisons, nous courons cette course, nous menons ce combat, mais nous le faisons de manière incorruptible. Je cours donc ainsi, poursuit Paul. Sans hésitation. Je combats ainsi, sans frapper dans le vide. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Paul nous dit ici qu'il poursuit son combat chaque jour, sans relâche, afin de ne pas être disqualifié. Il ne doit donc pas oublier les promesses de Dieu et la manière dont Dieu le soutiendra dans ses combats, comme l'a fait le roi Asa, poursuit-il. Passons à Hébreux 12, verset 1. Nous parlons de l'exemple de Paul, mais ici, je crois que nous allons voir l'exemple du Christ. Hébreux 12, verset 1. C'est pourquoi, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. En tant que soldats, soldats du Christ, une grande nuée de témoins, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui ont mené le combat, rejetons tout fardeau qui nous encombre et le péché qui nous enveloppe si facilement. Donc, toute pensée qui peut facilement nous distraire. Et courons avec persévérance la course qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a donné sa vie pour vous et moi. Christ est allé jusqu'au bout dans ses batailles, dans son combat. Nous devons tous faire de même. Alors que nous arrivons à la fin, nous avons entendu et vu l'instruction de Dieu concernant cette fée des trompettes, selon laquelle nous devons également sonner notre trompette chaque jour, lorsque nous partons en guerre, lorsque nous partons au combat, lorsque nous partons à la lutte dans notre vie quotidienne, alors que nous marchons sur ce chemin. Dieu veut que nous le cherchions dans ces combats. Dieu veut que nous sonnions cette trompette pour lui rappeler que nous sommes dans le besoin, et il promet de nous libérer, de nous sauver. Nous prenons tous nos soucis et nous les lui confions. Nous revêtons l'armure du chrétien et nous avons vu ce que Dieu fera lorsqu'il mènera les combats pour nous. Nous avons vu la puissance de Dieu. Alors, mes frères, passons à Romains 8, verset 31, pour conclure. Gardez cette image à l'esprit. Nous avons sonné de la trompette, nous avons cherché Dieu dans nos besoins, dans nos difficultés. Nous avons revêtu toute l'armure de Dieu, et où cela nous plaise-t-il? Dans quelle situation encourageante cela nous plaise-t-il? Romains 8, verset 31. Avec cette image à l'esprit, nous sommes des soldats, nous avons revêtu l'armure, nous avons sonné de la trompette. Frères et sœurs, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous?